Bonjour, je suis Samia, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants, un petit garçon de 2 ans et demi et une fille de 9 ans. Alors avant d'avoir mes enfants, ce qui était vraiment fondamental pour moi, c'était de guérir et de traiter un certain nombre de traumas et de blessures d'enfance. Je suis fille de parents immigrés d'Algérie qui ont connu la guerre d'Algérie, qui ont connu la misère et toutes les atrocités liées à la guerre. Donc c'était des parents qui étaient très angoissés et qui s'exprimaient peu. Du coup, j'ai ressenti vraiment le besoin d'aller visiter mon passé, ce qui m'a été transmis et ce qui ne m'a pas été transmis verbalement, à travers une psychanalyse qui a duré à peu près 10 ans. En plus de la psychanalyse, je me suis beaucoup intéressée à des thématiques comme la psychogénéalogie ou le transgénérationnel, qui m'ont d'ailleurs beaucoup intéressée. Et grâce à tout ça, aujourd'hui avec mes enfants, je peux dire que j'ai une relation qui est apaisée, une relation heureuse et qui me convient. Alors c'est pas toujours facile parce que parfois, les enfants sont un peu comme des miroirs, donc il y a des moments où je me sens un petit peu réactivée par rapport à mon passé. Mais grâce au travail que j'ai fait, voilà, je me sens beaucoup plus en confiance et plus outillée pour pouvoir y faire face.
Oser regarder en arrière, s'y attarder, comprendre, mieux se connaître. Voilà le challenge qu'un parent en devenir pourrait se lancer. C'est-à-dire que se sentir prêt à accueillir un enfant pourrait se préparer en se délestant, ou tout du moins en faisant face à ses propres blocages. Jeter un œil dans le rétroviseur afin d'ancrer son présent pour aller de l'avant. De nombreuses personnes prennent la décision de ne pas se lancer tête baissée dans la parentalité. Ils y réfléchissent à deux fois et pour cela se font aider par des professionnels qui décortiquent leur enfance, cherchent où se situent les traumas. Le but de ce travail en amont ? Éviter de reproduire des comportements qu'on voudrait éviter avec nos enfants. Laetitia Pluteau est psychologue et psychothérapeute, spécialiste du lien et du trauma. Son approche clinique s'ancre principalement dans la théorie de l'attachement. Nous allons évoquer aujourd'hui avec elle cette dimension des transmissions conscientes et inconscientes pour ne pas être plombée par notre passé en tant que parent. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Laetitia Pluteau.
Bonjour Dorothée.
Alors un sujet qui n'est pas simple aujourd'hui, comme je le disais en introduction, comment ne pas être plombé par notre passé en tant que parent. Pendant la grossesse, déjà on est souvent, même tout le temps, traversé par un tas d'émotions. Est-ce que notre passé d'enfant, même d'enfant in utero, je ne sais pas, ressurgit à ce moment-là quand nous sommes enceintes ?
Alors oui, c'est une période qui est particulièrement sensible dans le processus de devenir mère. Donc beaucoup de choses vont revenir à la surface pendant cette période. Après, en termes de ce qui va se transmettre, pas se transmettre à l'enfant, ça va beaucoup être lié à comment est-ce que le parent, la mère est déjà dans un accueil de son enfant.
Ouais.
Donc quand il y a des difficultés autour de la procréation, quand un enfant n'est pas désiré, quand un enfant se développe in utero, mais les parents n'ont pas connaissance de cette grossesse, ça arrive dans les délits de grossesse.
Bien sûr.
Il peut y avoir en effet des empreintes déjà à cet endroit-là, autour du développement in utero, de ce qui s'est passé autour de l'histoire familiale. Mmh. Et puis ce à quoi les bébés vont être particulièrement sensibles, c'est au stress. Donc un stress modéré auquel la mère va être en capacité de faire face de façon assez adaptée aura peu d'impact, mais en revanche le stress chronique, le fait d'être éventuellement exposé aussi à des traumas, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le bébé va recevoir ça de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus directe.
Quand on accouche, la naissance, le contexte ou je ne sais pas, la durée de cet accouchement, les événements qui y sont liés, est-ce que la naissance de notre enfant influence le lien qu'on va créer avec lui? Je sais pas, je pense aussi à toutes ces mamans qui accouchent par césarienne et qui disent que c'est très difficile pour elles parce qu'on leur ôte leur enfant et elles ne peuvent pas faire ce fameux pot à pot qu'on préconise aujourd'hui. Est-ce que la naissance, ça influence sur le lien qu'on crée avec notre bébé?
Alors oui, ça peut avoir un impact très important. Ce qui est important, c'est comment la mère vit son accouchement, d'une part. Donc, il y a le vécu parental, c'est-à-dire comment, en effet, une césarienne peut être vécue d'une certaine façon. Toutes les femmes ne vont pas le vivre de la même façon. Donc, en effet, pour certaines femmes, ça va être quelque chose de déchirant. Ou il y a aussi tout un imaginaire autour de comment est-ce qu'il faut donner naissance à son enfant.
Bien sûr.
Et puis, peut-être une impression d'échec, de pas y arriver. Donc, il va y avoir des histoires comme ça, des récits qui vont être présents et imprégner la façon dont la maman va recevoir son enfant. Donc, ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est que dans tous ces sujets autour de ce qui se transmet, c'est beaucoup l'état émotionnel du parent qui se transmet à l'enfant. Ça, c'est une part qui est très importante. Et que plus le parent va avoir justement été en capacité à, en amont, avoir travaillé sur lui-même, sur elle-même, d'avoir nettoyé un certain nombre de choses de son histoire personnelle, et mieux l'accueil va se faire. Et finalement, quasiment quels que soient les aléas qui vont être rencontrés, évidemment dans des proportions pas trop traumatisantes mais disons que...
Il sera prêt, quoi.
Voilà. En fait, être prêt à pouvoir naviguer dans des aléas, dans des difficultés, mais sans être... profondément bouleversé par l'expérience. Donc, il y a ces éléments-là vraiment de, on appelle ça la régulation émotionnelle du parent, c'est-à-dire sa capacité à naviguer, à revenir au calme dans des situations qui peuvent être stressantes. Mmh. Et puis, il y a le trauma du bébé. Ça, c'est autre chose, mais ça va avec. C'est-à-dire que une naissance traumatique pour un bébé, alors elle sera probablement moins traumatique si il est entouré de suffisamment justement de calme, ce bébé, et puis de compétences. Mais ça, c'est l'expérience du bébé qui peut laisser des traces traumatiques, et notamment, par exemple, des bébés qui vont passer en couveuse, un temps de séparation qui va être assez long. Et c'est des choses qui ont été assez mal connues, mal décrites, et qui le sont de mieux en mieux. Et c'est aussi des traces traumatiques qui se travaillent, même des années après, même à l'âge adulte. On peut être un adulte et avoir eu une naissance traumatique et pouvoir la retravailler en thérapie aujourd'hui. Donc, il y a de l'espoir aussi, c'est important de mettre...
Oui, c'est formidable.
Oui, tout à fait.
Alors, être parent, hein, on le dit depuis que ce podcast existe, c'est le travail le plus compliqué qui existe. Est-ce que notre façon d'être parent est déterminée par la façon dont nos propres parents se sont comportés avec nous, par exemple ?
Alors, en partie, heureusement, pas totalement.
Ouais.
Enfin, je dis heureusement parce que dans beaucoup de situations, le parentage n'a pas été absolument optimal, idéal. En partie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande part qui est mobile, qui est plastique, qui bouge, on peut apprendre plein de choses justement qui vont vraiment nous aider en tant que parents à mieux comprendre, à décoder un certain nombre de choses. Ces apports extérieurs, ils vont être plus ou moins utiles aussi en fonction de ce qu'on a reçu soi-même. C'est-à-dire que si on a été beaucoup négligé ou qu'on a subi la maltraitance, ou qu'il y a eu un type de parentage vraiment très très perturbé, une fois qu'on est parent, les apports autour de la parentalité vont être moins efficaces, moins bien compris peut-être, parce qu'en fait, il y aura tout un pan justement encore très actif de ce qu'on a reçu de la part de nos parents et qui reste encore très actif. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est les réactions qu'on peut avoir face à des comportements des enfants.
Par exemple ?
Par exemple, de l'agacement qui devient une irritabilité, qui devient quelque chose qui peut ressembler progressivement à de la violence.
Oui.
Quand c'est très intense, quand c'est très présent, les apports des livres et puis les discussions qu'il peut y avoir avec d'autres parents peuvent être tout à fait utiles, mais probablement que ça ne sera pas suffisant. On aura besoin de faire un petit travail en plus.
Oui.
Justement pour faire la part de ce qui se réactive dans la relation avec l'enfant, de sa propre histoire personnelle. Donc, j'ai parlé peut-être de la violence, mais il y a autre chose. Il y a de l'agacement, il y a le fait de se sentir pas aimé par son enfant et du coup, de lui donner une responsabilité très forte, de se sentir aussi peut-être agacé par certains comportements, que l'enfant prend trop de place, qu'il attire trop l'attention. Enfin, il peut y avoir vraiment toutes sortes de sensations en tant que parent qui s'imposent et qui vont perturber la relation.
Et peut-être plus communément, est-ce que notre relation à notre enfant est aussi déterminée par rapport à notre place à nous dans la fratrie ? Je suis un second ou je suis l'aîné ? Comment je me comporte avec mon aîné ou avec le deuxième ? Est-ce que ça, il y a une incidence ?
Mais oui, puis c'est une question qui est intéressante parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Les gens se demandent, mais attendez, dans ma fratrie, on est très différents les uns des autres. Comment ça se fait, on a eu les mêmes parents ? Ben non, en fait, on n'a pas eu tout à fait les mêmes parents, même si c'est les mêmes personnes. Hein, la naissance d'un enfant correspond à un âge des parents, à des circonstances autour de la naissance. Ça correspond à peut-être des aléas qu'il y a pu y avoir, économiques. Et les parents, de ce fait, ont été différents avec l'un et avec l'autre. Donc quand on devient soi-même parent, il va y avoir des choses qui se réactivent dans la relation avec l'un des enfants plus fortement par rapport à son tempérament, par rapport en effet à sa place dans la fratrie. Si je suis l'aîné et que j'ai un aîné qui est aussi une fille, eh bien il va y avoir quelque chose qui va se travailler en miroir, hein, et qui va créer des attentes particulières, une complicité particulière, mais ça va en effet colorer, donner une tonalité spéciale à la relation.
Comment est-ce qu'on peut éviter, parce qu'on le voit souvent, avec notre aîné, on est toujours un peu plus difficile, surtout si on a nous-mêmes été l'aîné, on dit, bah voilà, tu payes un peu les pots cassés, c'est comme ça. On le sait que c'est des schémas qu'il ne faut pas reproduire. Pourtant, je ne sais pas, c'est plus fort que nous, on le fait quand même. Comment on peut éviter justement de reproduire avec nos enfants ces schémas dont on a pu nous-mêmes souffrir ? Je ne sais pas, un manque d'affection, d'attention, ou un parent autoritaire ou distant, que sais-je. Mais on en est conscient, et pourtant, c'est comme si c'était plus fort que nous. Comment est-ce qu'on peut faire ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui va se transmettre de façon plutôt négative, plutôt désagréable, c'est-à-dire que aussi il y a des moments dans lesquels on se sent bien, on peut s'autocritiquer de comment on s'est comporté. C'est toujours des choses qui s'imposent à soi. C'est pas des réactions qu'on a envie d'avoir ou qu'on choisit d'avoir. Et Dan Siegel, quand il parle de l'attachement sécure, il dit justement que l'attachement sécure, le meilleur prédicteur de l'attachement sécure, c'est d'avoir été en capacité de faire sens de son histoire. Donc, c'est pas d'avoir un attachement sécure soi-même, de naître avec nécessairement. On peut avoir quelques perturbations au niveau de l'attachement, au niveau de la relation. Mais faire sens de son histoire, ça veut dire comprendre, ça veut dire pouvoir s'auto-observer et donner un sens à une réaction qu'on a par rapport à son enfant. C'est tout à fait différent de réagir vis-à-vis de son aîné parce que il ou elle n'a pas fait ceci ou cela, a eu un comportement un peu de défi ou quelque chose comme ça, et d'être en réaction et d'exiger quelque chose de différent d'elle ou de lui. C'est différent d'être dans cette posture-là que de se dire, ah, là, je sens que j'ai quelque chose en moi qui s'agace, et je voudrais avoir cette réaction, mais je sais que, en fait, la demande que j'ai, le besoin que j'ai, il n'est pas lié à cet enfant-là, il est lié à ce que j'ai moi-même vécu dans ma famille d'origine.
Donc, c'est dur, hein?
Oui, c'est dur. Quand c'est trop fort, c'est qu'il y a besoin de faire un petit travail, encore une fois. C'est-à-dire que quand ce travail d'auto-observation, de faire un pas de côté et d'observer ce qui se passe et de laisser aussi passer la réaction émotionnelle qu'on a à l'intérieur du corps, quand ça, c'est difficile à faire et que c'est chronique et que ça gâche la relation, à mon sens,
c'est qu'il faut prendre les choses en main.
C'est qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Il y a des perturbations dans le lien qu'il est préférable de ne pas négliger parce que ça a plutôt tendance à grossir, à s'envenimer quand l'enfant ne correspond pas à l'attente, quand il va aussi peut-être s'engager dans des comportements justement encore plus de défiance, d'opposition. Donc, c'est plus intéressant pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, d'aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qui se réactive plus précisément ? Parce que parfois, ce n'est pas si facile à voir. Hein.
Mais c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que est-ce qu'il faut quand même, pas pour autant dans nos difficultés avec nos enfants, on a tous des difficultés avec nos enfants, on peut s'agacer parce que j'en ai un qui ne dort pas bien, j'en ai un qui ne mange pas bien. Est-ce qu'il faut voir, malgré tout, derrière tout ça, à chaque fois des blocages qui sont liés à notre propre histoire ou pas forcément? Comment on fait le tri aussi?
Mais le tri, il est à faire dans comment est-ce qu'on réagit soi-même en premier lieu. Qu'est-ce que ça nous fait à nous? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Est-ce que ça nous rappelle des émotions du passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réactive? C'est d'abord soi, c'est-à-dire est-ce que le symptôme d'un enfant, ça modifie quelque chose de la dynamique relationnelle à la maison? Est-ce que ça... Ouais, ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus complexes et qui se voient justement davantage en thérapie. Mais la réaction qu'on a soi-même, si on est très, très agacé, très énervé, si on n'endort pas la nuit,
oui.
Si on est très perturbé, c'est qu'il y a besoin d'aide. Si on considère en revanche que il s'agit d'une difficulté mais qui est surmontable et face à laquelle on arrive à garder suffisamment de calme à l'intérieur de soi tout en n'étant pas dans quelque chose de mettre de côté ou de pas voir la réalité de se sentir suffisamment ancré pour se dire bon mon enfant rencontre cette difficulté comment est-ce que je peux faire pour l'accompagner pour trouver des solutions pour aller vers du mieux, mais avec le calme, et que ça fonctionne plutôt bien, vraisemblablement, c'est plutôt des bons signes d'avancer vers du mieux.
Est-ce que vous conseillez finalement, ce que je disais en introduction, toute personne aujourd'hui qui veut devenir parent, de sans faire forcément un travail de psychothérapie, mais de faire un travail quand même sur soi, introspectif, savoir, bon, est-ce que je me connais bien? Quelles sont mes zones d'ombre? Est-ce que j'ai besoin éventuellement de dépasser certains traumas? Ou si, donc, ça d'un côté plus léger, ou si j'ai eu une enfance vraiment difficile, bon, avant d'être parent et de me lancer dans la parentalité, il faut vraiment que je fasse un travail sur soi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Alors, donc, pour la première configuration que vous avez citée, le travail d'introspection et tout ça, pourquoi pas? Ça, je pense que c'est quelque chose, de toute façon, qui est nécessaire, qui est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant, mais pas forcément absolument...
Oui, obligatoire.
Obligatoire, voilà. Après, quand on a vécu des traumas, là, à mon sens, c'est quasiment, enfin, c'est vraiment très important de faire ce travail.
Ouais.
C'est vraiment très important. Parce qu'il va y avoir, en fait, d'abord une relation tout à fait particulière avec l'enfant qui arrive au monde. C'est pas la même relation qu'on peut avoir avec des enfants avec lesquels on travaille ou avec des neveux-nièces ou des enfants du voisinage. L'enfant qu'on va porter et puis mettre au monde et puis élever va réactiver quelque chose autour du fait de se sentir dépendant et de sentir quelqu'un qui dépend de soi. Donc, ça réactive des choses très profondes autour de perte de liberté et en même temps devoir répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Et puis, ce quelqu'un d'autre, il grandit, c'est un être à part entière et il ne va pas répondre à 100% aux attentes du parent. Il y a quelque chose aussi qu'on sait tous, qui est très idéalisé avant l'arrivée du premier enfant et puis qui va se confronter à la réalité. Et c'est tout ce qui va se jouer dans comment est-ce que, en tant que parent, on sent que on répond aux besoins de son enfant ou l'enfant se montre insatisfait, qui va réagir d'une façon peut-être un peu confrontante, qui va pas suffisamment faire sentir aux parents qu'il est absolument merveilleux. Donc, quand il est bébé, il y a pas de souci, mais c'est en grandissant que ça se que ça se complexifie. Et la relation avec le bébé, avec le temps, va vraiment concentrer beaucoup d'enjeux autour de ce qui n'a pas été suffisamment nourri en soi en tant que parent. Et quand il y a eu beaucoup de traumas, très souvent, ça perturbe énormément le lien avec les enfants.
Et ça a des impacts forcément sur le lien qu'on a avec nos propres enfants.
Oui, ça a un impact sur le lien avec les enfants et puis ça a un impact sur... la régulation émotionnelle des enfants sur comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils se sentent au monde, comment est-ce qu'ils ressentent leur place. C'est des sujets qui sont extrêmement vastes et dont on n'a pas idée, en fait. Et c'est normal de ne pas avoir vraiment la notion de ce qui se trame en dessous. C'est justement à ça que sert ce travail de thérapie. Et ça sert surtout, en fait, à faire en sorte que les traumas du passé soient réellement dans le passé.
Ouais.
C'est-à-dire que ça se réactive moins avec des réactions de l'enfant.
Est-ce que vous avez déjà constaté que quand un parent a vécu un événement douloureux ou traumatique à un âge précis, on peut le retrouver au même âge chez son enfant, qu'il y ait un, voilà, quelque chose qui se passe mal à ce moment-là, à la même période de l'enfance de son enfant.
Alors ça, je ne l'ai pas en tout cas constaté moi dans ma pratique. Mmh. Ce que j'ai constaté beaucoup, c'est que le parent, au fur et à mesure de l'évolution du développement de son enfant, il revit ses propres stades de développement à lui.
Ah oui.
Donc les enjeux que nous-mêmes en tant qu'enfants, on a traversés, on va continuer en fait à en faire l'expérience, alors de façon modérée bien sûr, mais dans la relation avec l'enfant. Et donc, c'est plutôt dans l'autre sens que j'observe ces phénomènes-là, mmh, autour de comment est-ce qu'un parent va changer de comportement, par exemple. Imaginons une mère qui, quand elle était au collège, a eu des problèmes en sixième. Eh bien, sa fille rentrant au collège, la maman va commencer à développer une anxiété très forte, mmh, à vérifier qui elle fréquente, comment est-ce que ça se passe, etc. Mmh. Et ça se passe à tous les âges de la vie de façon plus ou moins subtile. Là, l'exemple que je vous donne, il n'est pas subtil du tout, mais c'est très fréquent. Et puis, il y a des choses plus subtiles autour des périodes un peu clés autour du développement, notamment autour de l'autonomisation vers 18 mois, 12 oui. ans, quand l'enfant commence à se séparer et que ça peut générer des réactions très désagréables chez les mères, notamment.
Je parlais de blocages conscients et inconscients tout à l'heure. Est-ce qu'il existe aussi des blocages, des traumas qu'on trimballerait inconsciemment, comme dit la psychogénéalogie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et puis surtout, comment s'en défaire, si tel est le cas?
Alors, donc, les traumas qu'on se trimballe inconsciemment, c'est-à-dire, là, vous faites référence à quelque chose qui est extrêmement fréquent, c'est très, très présent, hein. C'est-à-dire que ce sont des expériences traumatiques qui sont enregistrées quelque part dans l'organisme, ouais, dans le système nerveux, mmh, mais dont on n'a pas de mémoire consciente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas d'image et on ne peut pas se raconter d'histoire autour de ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose de très fréquent et c'est le plus insidieux puisque c'est ce qui continue à générer des réactions bizarres dans le présent. Donc, bizarre parce que c'est complètement décalé.
Ça n'a pas de lien, oui, ça n'a pas de lien avec notre présent, on ne peut pas savoir. Ouais.
Non, ça n'a pas de lien. Et donc, le fait d'avoir des réactions qui n'ont pas de lien avec ce qui se passe, bah, c'est un indice que peut-être il y a quelque chose. Après, c'est des choses, évidemment, quand on n'en a pas conscience, qui ne peuvent commencer à émerger que au cours... Enfin, que au cours, non, parce qu'il y a des levées de mémoire traumatique, hein, à l'âge adulte. Si les expériences traumatiques ont lieu dans l'enfance, à l'âge adulte, des souvenirs par bribes vont recommencer à faire surface. Parfois pas, mais en général, ça revient à la surface parce qu'en fait, c'est trop difficile pour l'organisme de maintenir une pression aussi importante sur le fait de contenir, de retenir les expériences, parce que c'est relié à énormément d'énergie stockée dans le système nerveux.
Et si c'est, je ne sais pas, ma grand-mère et qui ne l'a jamais évoqué, est-ce que je peux...
Ah, vous parlez de la transmission transgénérationnelle du traumatisme.
Oui, aussi.
Donc, ce n'est pas en ayant soi-même vécu quelque chose.
Non, pas forcément aussi, oui.
Alors ça, c'est des sujets qui sont aussi très intéressants autour de la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Mais ça, en fait, c'est... Donc, il y a une petite part qui est liée à l'ADN, mais on sait que c'est plutôt l'environnement qui va modifier la façon dont justement le trauma continue à exister dans l'organisme. Mmh. Et la transmission se fait par la relation d'attachement. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va éviter un sujet, la façon dont on va contourner quelque chose, mmh, ou avoir une réaction hyper forte par rapport à une situation en particulier, que en fait des messages non-verbaux, des messages sensoriels, corporels vont se transmettre de génération en génération. On peut parler, par exemple, de situations d'agression sexuelle.
Oui.
S'il y a eu une agression sexuelle chez la grand-mère et que ça n'a jamais été dit, elle, dans sa façon de s'occuper de son enfant, il y aura probablement quelque chose de perturbé dans sa relation avec son enfant. On appelle ça de la dissociation, c'est-à-dire que le parent, il est présent physiquement à ce qu'il est en train de faire, mais en même temps, il y a quelque chose qui est figé en lui, en elle quand il s'agit de la mère.
Ah oui.
Et que l'attitude va être bizarre, fermée. Le visage va changer d'expression soudainement. Par exemple, au moment de changer la couche ou d'être dans des moments où donner le bain ou des choses en fait liées à l'enveloppe corporelle. C'est pas des choses qui sont dites, mais le bébé, l'enfant, il ressent que le parent change. Il n'est plus le même.
Oui.
Il a le regard qui devient vide, le teint qui devient blême. Et de cette façon-là, donc évidemment, c'est des processus qui sont extrêmement complexes et surtout qui sont répétitifs. C'est-à-dire, c'est pas une fois.
Mm-hmm.
C'est un mode de fonctionnement qui s'inscrit dans une certaine bizarrerie, quelque chose qui est pas net et qui va transmettre un message. Ah bah en fait, quand on est tout nu, c'est bizarre, c'est désagréable. Ouais. Il y a quelque chose qui est pas net. Vous voyez, c'est vraiment des choses assez subtiles en fait qui se transmettent quand c'est pas par la parole. C'est plus dans l'expression du visage, le ton de la voix qui change, l'expression corporelle, le fait d'avoir une tournure, une posture qui change. C'est de cette façon là.
Est-ce que si on se rend compte en tant que parent, voilà, on a notre enfant qui grandit, on se rend compte qu'on a un peu loupé le coche. Finalement, on reproduit des schémas qu'on ne voulait pas. Est-ce qu'il est trop tard? J'ai envie de savoir, est-ce que malgré tout, à n'importe quel moment, on peut enclencher quelque chose pour se dire qu'on peut revenir en arrière, enclencher une thérapie à n'importe quel moment et que oui, c'est ça, est-ce que c'est pas trop tard?
Alors, j'ai vraiment la conviction que c'est jamais trop tard.
C'est
très important de le savoir. C'est jamais trop tard. En revanche, on reviendra pas en arrière, mais on réparera.
Mmh.
Ce qui est fait est fait, c'est-à-dire que ça constitue une expérience et ça fait partie du récit autobiographique de l'enfant aussi. Et c'est important que ça soit nommé, que ça existe comme voilà, des difficultés relationnelles qui ont pu exister. Mais en ayant cette conscience-là, les choses peuvent vraiment avancer de façon très, très intéressante. Enfin, c'est un message d'espoir autour de la réparation est possible. Et puis, c'est un processus qui est très puissant aussi au niveau relationnel. C'est-à-dire que l'enfant se rende compte que son parent se rend compte.
Oui, non mais oui, oui, oui.
C'est très puissant, déjà en soi. Et puis, la relation, c'est quelque chose qui peut se rigidifier, c'est-à-dire que ça peut vraiment rester dans un mode de fonctionnement qui ne bouge pas, qui est rigide, qui se confronte parce que les besoins du parent ne sont pas satisfaits. Mais ça peut vraiment s'ouvrir et puis onduler sur quelque chose de beaucoup plus souple où la communication est de retour. Et ça, c'est vraiment très important de le dire. Il y a une grande plasticité dans le fonctionnement humain.
Est-ce que thérapie, pour le coup, familiale, thérapie plus pour l'enfant aussi, quand on veut justement rattraper un peu tout ça?
Alors, tout va dépendre aussi de l'âge de l'enfant. En tout cas, moi, dans ma pratique et dans la branche dans laquelle je travaille, on a plutôt tendance à travailler surtout avec les parents,
oui,
dans un premier temps, mm-hmm, puisque ce sont eux les garants de la relation et ce sont eux qui sont responsables de la relation. C'est aussi très important de dire, c'est pas un petit enfant de 4 ans qui est responsable de l'état dans lequel sa mère se met parce qu'il a des comportements qui font du bruit. Il y a tout ce travail autour du parent qui se rend compte de sa responsabilité, qui se rend compte de ce qui se réactive de sa propre existence qui revient dans la relation avec son enfant. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même très importante. Et puis, pour des petits, il arrive qu'on ne les voit pas du tout. On peut aussi travailler avec eux quand il y a vraiment eu des choses vécues qui sont à réparer, bien sûr, mais ça sera seulement quand les parents auront déjà fait le travail. C'est des processus qui peuvent être un petit peu longs avant de voir l'enfant. Il y a bien sûr la possibilité aussi, quand les enfants sont plus grands, de travailler en thérapie familiale. Moi, c'est pas la branche dans laquelle je travaille, mais c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes, qui peuvent énormément porter leurs fruits justement pour un peu faire sortir l'enfant quand c'est le cas. D'un rôle qui lui est assigné de perturber la dynamique familiale. Ouais. Donc c'est bien de pouvoir dans une dynamique comme ça familiale de groupe de désintriquer ces rôles qui sont assignés de façon un petit peu rigide parfois. Hein. Ça, on le voit parfois en thérapie, des parents qui viennent et qui disent « Voilà l'enfant, vous pouvez me le réparer, je reviens dans
chez le garagiste. »
Voilà, c'est ça, mais c'est, non, ça ne fonctionne pas, hein, désolée.
Ouais. En tout cas, ce que je trouve, c'est que votre message est vraiment porteur d'espoir, à savoir que, bon, on a pu avoir une enfance cabossée, justement, et on peut réparer et ne pas reproduire ce lien avec notre propre enfant. Et je pense à tous ces parents que je trouve courageux et qui se lancent parfois en amont, justement, dans des thérapies pour pouvoir protéger ce lien précieux avec leur enfant. Je vous remercie beaucoup, Laetitia Buteau, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.